Chapitre 2. Beverly Hills, samedi 13 décembre 1980. Dans le jardin de Tony Harrod se trouvait une fontaine circulaire, au sommet de laquelle un satyre aux pieds fourchus urinait tout en contemplant Hollywood, les traits déformés par une grimace qui pouvait tout aussi bien traduire une aversion peinée qu'un mépris ricanant. Les intimes de Tony Harrod savaient parfaitement comment interpréter cette expression. La maison avait jadis appartenu à un acteur de films muets, qui, parvenu à l'apogée de sa carrière, avait négocié avec succès le tournant difficile du parlant pour mourir d'un cancer de la gorge 3 mois après la première de son tout dernier film au Grauman's Chinese Theater. Sa veuve avait refusé de quitter la vaste propriété et y avait demeuré pendant 35 ans, endossant le rôle de gardienne de mausolée et tapant régulièrement de vieilles relations hollywoodiennes et des parents jadis méprisés afin de payer ses impôts. À sa mort, en 1959, la maison avait été rachetée par un scénariste à qui l'on devait les scripts de 3 des 5 films de Doris Day produits à cette époque. Le scénariste se plaignait de l'état de décrépitude avancée du jardin et de la puanteur qui régnait dans le bureau du premier étage. Criblé de dettes, il finit par se suicider d'une balle dans la tête et fut découvert le lendemain par un jardinier immigré qui se garda bien de prévenir les autorités de peur de se voir reprocher sa situation irrégulière. Ce fut un avocat de l'association des scénaristes, venu discuter avec son client d'un procès pour plagiat, qui découvrit de nouveau son corps 12 jours plus tard. Parmi les propriétaires ultérieurs de la maison, il faut citer une actrice célèbre qui y résida entre ses 5e et 6e mariages, un technicien en effets spéciaux qui périt en 1976 lors d'un incendie, et un cheikh enrichi par le pétrole qui fit repeindre le satyre en rose et le baptisa d'un nom juif. Le cheikh fut assassiné en 1979 par son beau-frère alors qu'il se trouvait à Riyad sur le chemin de la Mecque, et Harrod acheta la maison 4 jours plus tard. « Putain, c'est merveilleux !» déclara Harrod à l'agent immobilier tandis qu'il contemplait le satyre urinant. « J'achète !» 1 heure plus tard, il signait un chèque de $600 000 en guise d'art. Et il n'avait pas encore mis les pieds à l'intérieur de la maison. Sheila Barrington avait entendu nombre d'histoires sur Tony Harrod et sur son caractère impulsif. On lui avait raconté que Harrod avait insulté Truman Capote en présence de 200 témoins, et qu'en 1978, il avait failli se faire arrêter pour possession de narcotiques en compagnie de l'un des plus proches conseillers de Jimmy Carter. Personne n'était allé en prison, rien n'avait pu être prouvé. Mais selon la rumeur, Harrod avait voulu faire une farce au malheureux Géorgien. Sheila se pencha pour regarder le satyre, tandis que le chauffeur conduisait la Mercedes vers le bâtiment. Elle ressentait avec acuité l'absence de sa mère à ses côtés. Était également absent pour cette entrevue Lorraine, son impresario, Richard, l'impresario de sa mère, Coles, son chauffeur garde du corps, et Esteban, son coiffeur. À l'âge de 17 ans, Sheila exerçait avec succès le métier de mannequin depuis 9 ans et celui de vedette de cinéma depuis 2 ans. Mais lorsque la Mercedes s'immobilisa devant les portes ouvragées de la maison de Harrod, elle se sentait dans la peau d'une princesse de conte de fées, obligée de rendre visite à un ogre féroce. « Non, pas un ogre, » pensa-t-elle. Comment Norman Mailer a-t-il appelé Tony Harrod après cette réception chez Stephen et Leslie au printemps dernier? Un petit troll maléfique. Je dois traverser la caverne de ce petit troll maléfique avant de trouver le trésor. Sheila sentit sa nuque se nouer lorsqu'elle appuya sur la sonnette. Elle se consola en pensant que M. Borden serait là. Elle aimait bien le vieux producteur, avec sa courtoisie très vieille Europe et sa charmante pointe d'accent. Sheila sentit la tension monter de nouveau en elle, en pensant à ce que serait la réaction de sa mère, si celle-ci apprenait que sa fille avait arrangé cette entrevue en secret. Elle était sur le point de faire demi-tour lorsque la porte s'ouvrit en grand.
« Ah !
Miss Barrington, je présume. » Tony Harrod se tenait sur le seuil, vêtu d'un peignoir en velours. Sheila le toisa du regard et se demanda s'il portait quelque chose en dessous. Quelques poils gris étaient visibles au milieu de la toison noire de sa poitrine. « Bonjour, » dit Sheila. Et elle suivit dans l'entrée celui qui allait peut-être devenir son producteur associé. Au premier coup d'œil, Tony Harrod n'était pas un candidat évident au rôle de troll. Il était un peu plus petit que la moyenne. Sheila mesurait 1,80 m, ce qui était grand, même pour un mannequin. Et Harrod ne devait pas faire plus d'1,70 m. Et ses bras trop longs et ses mains trop larges semblaient disproportionnés par rapport à son corps mince et presque juvénile. Ses cheveux sombres étaient coupés si courts qu'ils retombaient en boucles noires sur son front haut et pâle. Le signe le plus apparent de sa nature de troll, pensa Sheila, était la pâleur de sa peau, plus typique d'un habitant des régions industrielles du Nord-Est que d'une personne demeurant à Los Angeles depuis 12 ans. Les traits de Harrod étaient osseux, accusés. Sa bouche sardonique abritait beaucoup trop de petites dents, et sa langue rose et vivace semblait humecter ses lèvres en permanence. Ses yeux, profondément enfoncés dans leurs orbites, avaient l'air vaguement pochés. Mais ce fut l'intensité de ce regard ténébreux qui obligea Sheila à reprendre sa respiration, et la fit un instant hésiter dans l'entrée carrelée. Elle était très sensible aux yeux. C'était ses propres yeux qui l'avaient aidée à devenir ce qu'elle était, et elle n'avait jamais rencontré un regard aussi perçant que celui de Tony Harrod. Languides sous leurs paupières lourdes, presque vagues et indifférentes mais pourtant moqueurs, les petits yeux marrons de Harrod dégageaient une puissance et une insolence qui contrastaient vivement avec le reste de son apparence.
« Entrez, fillette !»«
Bon Dieu, où est votre entourage ?» « Je croyais que vous étiez toujours suivi par une foule, à côté de laquelle la grande armée ressemble à une réunion du fan club de Richard Nixon. »«
Pardon ?» dit Sheila, et elle regretta tout de suite sa réaction. Cette entrevue était trop importante pour qu'elle se permette de perdre des points aussi vite.
« Laissez tomber !» dit Harrod en reculant pour mieux la regarder. Il enfonça les mains dans les poches de son peignoir, mais Sheila eut le temps de remarquer l'extraordinaire longueur de ses doigts pâles. Elle pensa à Gollum dans Bilbo le Hobbit.
« Bon Dieu ! Vous êtes vachement belle !» dit le petit homme. « Je savais que vous étiez une beauté, mais vous êtes encore plus impressionnante que sur vos photos. Vous devez faire bander tous les ados !»
Sheila se raidit. Elle s'était attendue à quelque grossièreté, mais elle avait été élevée dans la haine de l'obscénité. « Monsieur Borden est-il déjà arrivé ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. Harrod sourit mais secoua la tête.
« J'ai bien peur que non. Willy devait rendre visite à de vieux amis quelque part dans l'Est, ou dans le Sud, à Pecno-les-Bains ou quelque chose comme ça. »
Sheila hésita. Elle s'était crue prête à conclure le marché qu'elle désirait avec M. Borden et son producteur associé. Mais l'idée d'avoir affaire au seul Tony Harrod lui donnait des frissons. Elle était sur le point de trouver une excuse pour s'enfuir, mais l'apparition d'une femme superbe l'en empêcha.
« Miss Barrington, permettez-moi de vous présenter mon assistante, Maria Chen, » dit Harrod. « Maria, voici Sheila Barrington. » Une jeune actrice de grand talent qui sera peut-être la vedette de notre prochain film.
« Enchantée, Miss Chen. »
Sheila toisa son aînée du regard. C'était une femme d'une trentaine d'années, dont les origines orientales se devinaient à ses pommettes superbement sculptées, ses cheveux ailes de corbeau luxuriants et ses yeux légèrement bridés. Maria Chen avait elle aussi l'allure d'un mannequin. Son sourire chaleureux dissipa immédiatement la légère tension qui ne manque jamais de s'instaurer lorsque deux femmes également séduisantes sont présentées l'une à l'autre.
« Je suis ravie de vous rencontrer, Miss Barrington. »
Maria Chen avait une poignée de mains fermes et agréables.
« J'admire depuis longtemps votre travail dans la publicité, »
Il est d'une qualité exceptionnelle. Les photos d'Avedon parues dans Vogue étaient magnifiques.
Merci, Miss Chen.
Je vous en prie. Appelez-moi Maria.
Elle sourit, repoussa ses cheveux en arrière et se tourna vers Harold.
La piscine est à la bonne température. Je me suis arrangé pour bloquer les appels téléphoniques pendant 45 minutes.
Harold hocha la tête.
Depuis mon accident de voiture sur la Ventura Freeway au printemps dernier, j'ai besoin de passer chaque jour quelques minutes dans mon jacuzzi.
Il eut un petit sourire en la voyant hésiter.
Maillot de bain obligatoire.
Harold ouvrit son peignoir, révélant un maillot rouge sur lequel ses initiales étaient brodées en or.
Voulez-vous que Maria vous conduise au vestiaire, ou bien préférez-vous discuter du film plus tard quand Willy sera là?
Sheila réfléchit en hâte. Sa mère et Lorraine risquaient tôt ou tard d'être informées de cette entrevue secrète. Peut-être n'aurait-elle plus jamais la chance d'imposer ses conditions au producteur.
« Je n'ai pas apporté de maillot, » dit-elle.
Maria Chen éclata de rire et dit
« Aucun problème. Harold a des maillots de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Il y en a même plusieurs qui sont réservés à sa vieille tante. »
Sheila se joignit au rire. Elle suivit la jeune femme le long d'un interminable couloir, traversa une pièce emplie de meubles modulaires et dominée par un immense écran vidéo, puis passa devant des rangées de consoles pour arriver finalement dans un vestiaire aux murs lambrissés de cèdre. Les armoires contenaient des maillots de bain de tous les styles et de toutes les couleurs.
« Je vous laisse, » dit Maria Chen.
« Est-ce que vous vous joindrez à nous ?»«
Plus tard, peut-être. Je dois finir de taper le courrier de Tony.
Amusez-vous bien et...
Miss Barrington, ne vous offusquez pas trop vite. Tony a parfois de mauvaises manières, mais c'est quelqu'un de régulier. »
Sheila hocha la tête pendant que Maria Chen refermait la porte, puis elle passa en revue les maillots de bain. Il y avait de tout parmi eux, du minuscule bikini français au maillot une pièce classique, en passant par le string. Ils étaient signés Gore-Tex, Christian Dior ou Cole. Sheila choisit un maillot orange plutôt discret, mais dont la coupe faisait ressortir ses cuisses et ses longues jambes. Elle savait par expérience que ses petits seins fermes apparaîtraient à leur avantage et que leurs mamelons seraient visibles sous le tissu. Et puis, la couleur serait en harmonie avec le vert de ses yeux. Sheila franchit une autre porte et aboutit dans une serre dont les trois parois de verre permettaient à la lumière de baigner copieusement toute une prolifération de plantes tropicales. Sur le quatrième mur, à côté de la porte, se trouvait un autre écran vidéo de taille respectable. Des haut-parleurs invisibles diffusaient en sourdine de la musique classique. L'air était saturé d'humidité. Sheila aperçut au dehors une vaste piscine dont les eaux miroitaient dans la lumière du matin. Tony Harold, assis dans son jacuzzi, sirotait une boisson fraîche. Sheila sentit l'air moite et brûlant l'envelopper comme un drap de bain humide.
« Qu'est-ce qui vous a retardé, fillette? J'ai commencé sans vous. »
Sheila sourit et s'assit au bord de la petite piscine. Elle se trouvait à 1,50 m de Harold. Pas assez loin pour paraître insultante à son égard, pas assez près pour lui suggérer des idées d'intimité. Elle battit distraitement des pieds dans l'eau bouillante, levant les jambes afin d'exhiber les muscles de ses mollets et de ses cuisses.
« Allons-y, voulez-vous ? » proposa Harold.
Il eut un petit sourire moqueur et sa langue jaillit pour humecter sa lèvre inférieure.
« Je ne devrais même pas me trouver ici, » dit posément Sheila. « C'est mon impresario qui s'occupe de ça. Et je consulte toujours ma mère avant de donner mon accord à un projet, même si ce n'est qu'une séance de photos de mode. »
Si je suis venu ici aujourd'hui, c'est seulement parce que M. Borden me l'avait demandé. Il a été très gentil avec nous depuis...
Ouais, ouais, il est dingue de vous, lui aussi, coupa Harold.
Il posa son verre au bord de la piscine.
Voilà le topo. Willy a acheté les droits d'un best-seller intitulé « Traite des Blanches ». C'est une sous-merde écrite avec les pieds,
à l'intention des adolescents illettrés et des ménagères lobotomisées qui font là que chaque mois pour acheter les nouveautés de chez Harlequin. De la branlette pour empêcher du bulbe. Naturellement, il s'en est vendu 3 millions d'exemplaires. Nous avons acheté les droits avant publication. Willy a un type chez Ballantyne qui lui file le tuyau chaque fois qu'une de ces merdes risque de marcher.
À vous entendre, ça a l'air très intéressant, commenta tranquillement Sheila.
Foutre, oui. Bien entendu, l'adaptation condensera pas mal le bouquin. On ne gardera que l'intrigue de base et les scènes de sexe. Mais on a déjà mis des types bien sur ce boulot. Michael Maydrainan s'est déjà attelé au scénar, et Schubert Williams a accepté de se charger de la mise en scène.
Shu Williams?
Sheila était surprise. Williams venait de diriger George C. Scott dans un film que la MGM avait poussé au maximum. Elle contempla la surface bouillonnante de la piscine.
« Je crains que ça ne ressemble pas au genre de projet qui nous intéresse, » dit-elle. « Ma mère, je veux dire, nous avons choisi avec beaucoup de soin les films destinés à me lancer dans la carrière cinématographique. »«
Mouais, » dit Harold en finissant son verre.
« Il y a 2 ans, on vous a vu aux côtés de Ryan O'Neill dans L'espoir de Shannerly. Une gamine mourante rencontre un escroc mourant dans une clinique bidon du Mexique. Ils renoncent ensemble à chercher des remèdes bidons et trouvent le vrai bonheur pendant les quelques semaines qu'il leur reste à vivre. Bordel de Dieu. Et, je cite Charles Champlain, « Les bandes-annonces de cette abomination à l'eau de rose suffiraient à elles seules à donner des spasmes à un diabétique. »
La promo et la distribution étaient nulles et...
Tant mieux pour vous, fillette, tant mieux pour vous. Et puis, l'année dernière, votre mère vous fait engager dans le film de Wise, À l'Est du Bonheur. Vous alliez devenir la nouvelle Julie Andrews dans cet ersatz de la mélodie du bombeur. Échec sur toute la ligne. On ne nage plus dans les fleurs des années 60, mais dans l'univers impitoyable des années 80. Je ne suis pas votre impresario, Miss Barrington, mais, à mon avis, votre mère et la fine équipe qui l'entoure sont en train de vous préparer une carrière de merde. On cherche à vous transformer en une espèce de Mary Osmond.
Oui, oui, je sais que vous appartenez à l'église des saints des derniers jours.
Et alors? Vous étiez fabuleuse en couverture de Vogue et de Seventeen, et vous voilà sur le point de tout foutre en l'air. On veut faire de vous une ingénue de 12 ans, et c'est beaucoup trop tard.
Sheila resta immobile. Son esprit fonctionnait à plein régime, mais elle ne trouvait rien à répondre. Elle avait envie de dire à ce petit troll maléfique d'aller se faire voir, mais les mots refusaient de sortir de sa bouche, et elle restait figée au bord de la piscine bouillonnante. Son avenir dépendait des minutes qui allaient suivre, et son esprit n'était que confusion. Harold sortit de la piscine et se dirigea vers un bar dissimulé dans la masse des fougères. Il se servit un grand verre de jus de pamplemousse et se tourna vers Sheila.
« Vous voulez boire quelque chose ?» J'ai tout ce qu'il faut ici. Même un punch hawaïen, si vous vous sentez particulièrement mormone aujourd'hui.
Sheila secoua la tête. Le producteur replongea dans le jacuzzi et posa le verre sur sa poitrine. Il leva les yeux vers un miroir accroché au mur et eut un hochement de tête presque imperceptible.
D'accord, dit-il. Parlons de traite des blanches, puisque tel est pour l'instant le titre de ce film.
Je ne pense pas que cela nous intéresserait.
Vous recevrez un cachet de $400 000, plus un pourcentage sur les recettes, dont vous ne verrez jamais la couleur, la comptabilité étant ce qu'elle est. Mais vous en retirerez un nom que vous pourrez monnayer dans tous les studios de cette ville. Ce film va casser la baraque, fillette. Faites-moi confiance. Je peux sentir un triomphe avant même la rédaction du 2e jet du traitement. Ça va faire très mal.
J'ai bien peur que non, monsieur Harold. D'après monsieur Borden, si nous n'étions pas intéressés par vos premières propositions, nous pouvions...
Le tournage commence en mars, poursuivit Harold.
Il but un grand trait de jus de fruits et ferma les yeux.
Chou pense qu'il durera 12 semaines, alors comptez sur une bonne vingtaine. Les scènes d'extérieur seront tournées à Alger, en Espagne et en Égypte, et vous passerez 3 semaines à Pinewood pour tourner les scènes du palais sur le plateau principal. »
Sheila se redressa. L'eau luisait sur ses jambes. Elle posa les mains sur ses hanches et jeta un regard noir au petit homme dans sa piscine. Il n'ouvrit même pas les yeux.
« Vous ne m'écoutez pas, monsieur Harrod, »
s'emporta-t-elle.
« J'ai dit non. Non, je ne ferai pas votre film. Je n'ai même pas vu le script. Vous pouvez prendre votre traite des blanches ou je ne sais quoi et me le foutre au cul. »
Harrod ouvrit les yeux. Sheila pensa à un lézard en train de se réveiller. L'écume venait caresser la poitrine pâle de Harrod.
« Adieu, monsieur Harrod. »
Et Sheila Barrington tourna les talons. Elle avait fait 3 pas lorsque la voix de Harrod la stoppa net.
« On a peur des scènes déshabillées, fillette ?»
Elle hésita, puis se remit en marche.
« On a peur des scènes déshabillées, »
répéta Harrod, et cette fois-ci, ce n'était pas une question. Sheila était presque arrivée à la porte lorsqu'elle se retourna vivement. Ses mains griffèrent l'air.
« Je n'ai même pas vu le script !»
Sa voix se brisa et elle fut stupéfaite de se découvrir au bord des larmes.
« Bien sûr, il y a quelques scènes déshabillées !»
continua Harrod comme si elle n'avait rien dit.
« Et une scène d'amour qui fera mouiller toutes les gamines. On pourrait utiliser une doublure, mais ce serait inutile. Vous vous en sortirez très bien, fillette. »
Sheila secoua la tête. Elle sentait monter en elle une rage indicible. Elle se retourna et à l'aveuglette tendit la main vers le loquet.
« Stop !»
La voix de Tony Harrod était plus douce que jamais, presque inaudible. Mais il y avait en elle quelque chose qui immobilisa la jeune femme mieux que ne l'aurait fait un cri. Elle eut l'impression que des doigts glacés se refermaient sur sa nuque.
« Viens ici. »
Sheila fit demi-tour et se dirigea vers Harrod, toujours dans l'eau, ses longs doigts croisés sur sa poitrine. Ses yeux étaient à peine ouverts, humides, langoureux, les yeux indolents d'un crocodile. Une partie de l'esprit de Sheila poussait des hurlements de panique outragée, tandis que l'autre se contentait d'observer la scène, paralysée par l'étonnement.
« Assieds-toi. »
Elle s'assit au bord de la piscine à moins d'un mètre de lui. Ses longues jambes plongèrent dans le jacuzzi. L'écume blanche éclaboussait ses cuisses bronzées. Elle se sentait éloignée de son propre corps, le contemplait avec un détachement presque clinique.
« Comme je te le disais, tu t'en sortiras très bien, fillette. Bon Dieu, on est tous un peu exhibitionnistes. Mais toi, tu recevras une petite fortune pour faire ce que tu as envie de faire de toute façon. »
Luttant contre une terrible torpeur, Sheila leva la tête et regarda les yeux de Tony Harrod. Dans la lumière diaprée, leurs iris étaient si larges qu'ils semblaient ne former que 2 trous noirs dans son visage pâle.
« Et dès maintenant, »
poursuivit Harrod d'une voix douce, si douce. Peut-être ne parlait-il même pas. Les mots semblaient glisser à l'intérieur du cerveau de Sheila, comme des pièces d'or coulant dans une eau sombre.
« Il fait vraiment très chaud ici. Tu n'as pas besoin de ce maillot, n'est-ce pas ?»«
Bien sûr que non. » Sheila le regarda sans rien dire. Quelque part en elle, au fond du tunnel de son esprit, elle était une petite fille au bord des larmes. Vaguement étonnée, elle vit son bras droit se lever et sa main se glissait doucement sous la bretelle du maillot. Elle tira légèrement sur le tissu qui glissa sur son flanc, faisant ressortir le galbe de ses seins. Elle fit tomber l'autre bretelle. Le tissu du maillot descendit jusqu'à ses mamelons. Elle voyait sur sa peau la fine ligne rouge laissée par l'élastique. Elle se tourna vers Tony Harrod. Il sourit presque imperceptiblement et acquiesça. Comme si on venait de lui en donner la permission, Sheila fit brusquement descendre le haut de son maillot.
Ses seins tressautèrent doucement lorsqu'ils furent libérés de l'étreinte du tissu orange. Là, sa peau était tendre, très blanche, à peine semée de quelques taches de rousseur. Ses mamelons étaient durs et se dressaient rapidement au contact de l'air frais. Leurs aréoles brunes, très larges, étaient délimitées par quelques poils noirs que Sheila trouvait si beaux qu'elle se refusait à les épiler. Personne ne le savait, même pas sa mère. Sheila n'avait permis à personne, même pas à Vedon, de photographier ses seins. Elle se tourna de nouveau vers Harrod, mais son visage n'était qu'une tache floue et pâle. La serre sembla basculer et tourner autour d'elle. Le bruit du recycleur d'eau devint de plus en plus fort, jusqu'à lui marteler les tympans. En même temps, Sheila sentit quelque chose s'éveiller en elle. Une douce chaleur l'envahit insidieusement. Comme si quelqu'un avait plongé directement dans son cerveau pour y caresser le centre du plaisir, aussi sûrement qu'une main en train de masser le doux renflement de son entrejambe. Sheila hoqueta et se cambra involontairement.
« Il fait vraiment très chaud, » dit Tony à Rod.
Sheila se passa les mains sur le visage, toucha ses paupières avec ce qui ressemblait à de l'émerveillement, puis ses paumes descendirent le long de son cou, de ses clavicules, et se posèrent sur sa poitrine, là où la chair devenait pâle. Elle sentait son pouls battre dans sa gorge comme un oiseau en cage. Puis elle laissa ses mains glisser plus bas, se cambra une nouvelle fois lorsqu'elles frôlèrent ses mamelons, brusquement sensibles jusqu'à en être douloureux, souleva ses seins comme le docteur Kemmerer le lui avait appris à l'âge de 14 ans, mais sans les examiner, se contentant de les presser, contre elle avec un plaisir qui lui donnait envie de crier.
« On n'a vraiment pas besoin de maillot, » murmura Rod.
Avait-il seulement murmuré ? Sheila était déconcertée. Elle le regardait et ses lèvres n'avaient pas bougé. Son léger sourire révélait des dents pareilles à des pierres blanches et acérées. Ça n'avait pas d'importance. Plus rien n'avait d'importance pour Sheila, excepté se débarrasser de ce maillot qui l'étouffait. Elle baissa un peu plus le tissu, lui fit franchir le léger renflement de son ventre et leva les fesses pour le faire glisser sous elle. Puis le maillot devint un simple bout de tissu passé autour de sa jambe, dont elle se débarrassa d'un coup de pied. Elle contempla son corps, s'arrêtant sur la fourche de ses cuisses et sur la bande presque verticale de toison pubienne qui montait vers la ligne de démarcation de son bronzage. L'espace d'une seconde, elle fut prise d'un nouvel étourdissement, cette fois-ci accompagnée d'un lointain sentiment d'horreur, puis elle sentit les caresses reprendre leur cours à l'intérieur de son esprit, et elle se laissa aller en arrière, prenant appui sur les coudes. L'eau chaude du jacuzzi bouillonnait autour de ses cuisses. Elle leva une main et suivit lentement le tracé d'une veine bleue qui battait sous la peau blanche de son sein. Le plus léger des contacts suffisait à enflammer sa chair. Le doux relief de ses seins semblait se contracter et s'alourdir en même temps. Le bruit de la piscine parut adopter le même rythme syncopé que les battements de son cœur. Elle leva son genou droit et glissa une main entre ses jambes. Sa paume monta doucement sur sa cuisse, éparpillant les gouttelettes qui étincelaient sur le duvet doré. La chaleur l'imprégnait, l'envahissait, la contrôlait. Sa vulve palpitait d'un plaisir qu'elle n'avait connu que dans les limbes coupables précédant le sommeil, filtrée par une honte qui avait à présent disparu, un plaisir qu'elle n'avait jamais connu si intense, si exigeant. Les doigts de Sheila trouvèrent les replis mouillés de ses grandes lèvres, et elle les écarta en émettant une espèce de sanglot.
« Trop chaud pour porter un maillot, » dit Tony à Rod. « Tous les deux. »
Il avala une dernière gorgée de jus de pamplemousse, se hissa sur le carrelage et posa le verre le plus loin possible au bord de la piscine. Sheila roula sur elle-même, sentant la fraîcheur du carrelage sur ses hanches. Ses longs cheveux retombèrent sur son visage lorsqu'elle se mit à ramper, la bouche entrouverte, toujours appuyée sur les coudes. Harold s'était étendu de tout son long, reposant lui aussi sur ses coudes, ses pieds battant mollement dans l'eau. Sheila s'arrêta et leva les yeux vers lui. Les caresses se firent plus insistantes dans son esprit, entr'ouvert le cœur et le titillèrent avec une lenteur taquine. Ses sens ne percevaient que le flux et le reflux d'une friction bilée. Sheila octa et serra involontairement les cuisses tandis que des flots de sensations pré-orgasmiques la parcouraient en vagues successives. Le murmure se fit plus fort dans son esprit, sifflement à guicheur qui semblait faire partie du plaisir. Les seins de Sheila touchèrent le sol lorsqu'elle se pencha pour tirer sur le maillot de Tony Harrod avec une frénésie à la fois violente et gracieuse. Elle fit glisser le tissu jusqu'à ses genoux et le maillot disparut sous l'eau. Une toison abondante recouvrait le ventre de Harrod. Son pénis pâle et flasque s'éveillait lentement dans son nid de poils noirs. Elle leva les yeux et vit que tout sourire avait disparu de son visage. Ses yeux étaient des trous percés dans un masque blême. On n'y lisait aucune chaleur, aucune excitation. Rien que l'intense concentration d'un prédateur contemplant sa victime. Sheila ne s'en souciait point. Elle ne savait pas ce qu'elle voyait. Elle savait seulement que les caresses s'étaient intensifiées dans son esprit, faisant passer celui-ci de l'extase à la douleur. Comme une drogue, un plaisir d'une pureté sublime envahissait son système nerveux. Sheila posa sa joue sur la cuisse de Harrod et tendit une main vers son pénis. Il la chassa d'un geste machinal. Sheila se mordit la lèvre et gémit. Son esprit était un tourbillon de sensations qui n'enregistrait que les coups d'aiguillon de la passion et de la douleur. Ses jambes étaient agitées de spasmes désordonnés, et elle se trémoussait contre le bord de la piscine. Sheila fit courir ses lèvres sur l'étendue salée de la cuisse de Harrod. Elle goûta son propre sang alors qu'elle tendait une main pour en envelopper les testicules de Harrod. Le petit homme leva la jambe droite et poussa doucement Sheila dans la piscine. Elle resta accrochée à ses cuisses, se pressa contre lui, poussa des petits gémissements pendant qu'elle le cherchait des mains et de la bouche. Maria Chen entra, brancha un téléphone à une prise murale et le posa sur le carrelage à côté de Harrod. « C'est Washington, » dit-elle. Elle jeta un regard à Sheila, puis sortit. Chaleur et friction désertèrent l'esprit et le corps de Sheila avec une soudaineté glacée qui lui fit pousser un cri de douleur. L'espace d'une seconde, elle regarda devant elle sans rien voir, puis elle tomba en arrière dans l'eau bouillonnante. Elle fut agitée de violents tremblements et serra les bras autour de sa poitrine. « Ici, Harrod, » dit le producteur. Il se leva, fit trois pas et enfila son peignoir. Avec un mélange d'incrédulité et de déception, Sheila regarda son bas-ventre pâle disparaître sous le tissu. Puis elle se mit à trembler encore plus violemment. Des frissons la parcouraient. Elle passa des doigts raidis dans ses cheveux et plongea son visage dans l'écume.
« Oui ?» dit Harrod.
« Bon Dieu de merde ! Quand ? Ils sont sûrs qu'il était à bord ? Bordel ! Ouais. Tous les deux ? Et l'autre, comment s'appelle-t-elle déjà ? Oh bordel ! Non, non, je vais m'en occuper. Non, j'ai dit que j'allais m'en occuper. Ouais. Non, disons dans 2 jours. Ouais, je serai là. »
Harrod reposa violemment le combiné sur son socle, se dirigea vers un fauteuil en osier et s'affala dedans. Sheila tendit la main au milieu du tourbillon et récupéra son maillot. Toujours tremblante, nauséeuse jusqu'au vertige, elle s'accroupit dans l'écume pour l'enfiler. Elle sanglotait sans en avoir conscience.
C'est un cauchemar.
Telle était la pensée qui résonnait dans le manège de son esprit. Harrod prit un boîtier de télécommande et le braqua sur l'écran vidéo encastré dans le mur. L'image de Sheila Barrington assise au bord d'une petite piscine y apparut aussitôt. Elle regarda d'un côté, les yeux vides, sourit comme dans un rêve et tira sur l'élastique de son maillot de bain. Ses seins étaient pâles, ses mamelons dressés, ses aréoles très larges et visiblement brunes même sous ce piètre éclairage.
« Non !»
hurla Sheila en fouettant les os. Harrod tourna la tête et sembla remarquer sa présence pour la première fois. Ses lèvres minces s'incurvèrent pour former un simulacre de sourire.
« Je crains qu'il y ait un petit changement de programme, » dit-il doucement. « Monsieur Borden ne participera pas à la mise en chantier de ce film. J'en serai le seul producteur. »
Sheila cessa de battre l'eau. Ses cheveux étaient plaqués en mèches humides sur son visage. Sa bouche était grande ouverte et des filets de salive pendaient à son menton. On n'entendait que ses sanglots incontrôlés et le ronronnement du recycleur d'eau.
« Le calendrier de tournage reste inchangé, » dit Harrod d'un air presque absent.
Il se tourna vers l'écran. Sheila Barrington rampait nue sur des carreaux noirs. Le torse nu d'un homme apparut sur l'image. Zoom sur le visage de Sheila qui frottait sa joue contre une cuisse pâle et velue. Ses yeux étaient voilés par la passion et sa bouche s'arrondissait comme celle d'un poisson.
« Je crains que M. Borden ne produise plus jamais de film avec nous, » dit Harrod.
Sa tête se tourna de nouveau vers elle et les phares noirs de ses yeux clignèrent lentement.
« Désormais, il n'y a plus que nous deux, fillette. »
Les lèvres de Harrod s'écartèrent et Sheila aperçut ses petites dents. Elles semblaient très blanches et très acérées.
« Je crains que M. Borden ne produise plus jamais de film avec personne. »
Harrod se retourna vers l'écran.
« Willy est mort, »
dit-il à voix basse.